Le journal présenté par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pour certains, c'est la fin d'un long calvaire de conditions de vie indignes et la perspective d'un abri au moment où l'hiver s'installe en France. Pour d'autres migrants, c'est un obstacle de plus dans leur long exode vers l'Angleterre. La jungle de Calais est démantelée depuis tôt ce matin. Opération d'ampleur pour évacuer les 6 à 8 000 étrangers installés dans le bidonville. Ces derniers jours, les autorités ont déjà tenté de régler le sort des mineurs isolés. Un casse-tête juridique, nous explique Claire Millot, la secrétaire générale de l'association Salam.
Le problème des mineurs isolés, c'est que comme tout migrant qui se trouve à Calais, il souhaite aller en Angleterre et donc il souhaite rejoindre de la famille. Et les seuls qui ont vraiment le droit de rejoindre leur famille, c'est ceux qui souhaitent rejoindre leurs parents. Mais pour ça, il faut que les parents soient régularisés en Angleterre. Donc c'est des situations qui sont compliquées. Plus du fait qu'on ne sait jamais vraiment qui est mineur et qui ne l'est pas. C'est très très compliqué à déterminer parce que dans certains cas, ils ont intérêt à dire qu'ils sont mineurs. Quand on dit « mon mal est mineur, on va étudier leur dossier et s'ils ont vraiment de la famille en Angleterre, on va les laisser passer », alors là, il y en a beaucoup plus qui sont mineurs. Et puis quand on leur dit « on va vous mettre à l'abri, on va s'occuper de vous dans des centres », là, ils ont l'impression qu'on veut les priver de liberté. Et puis d'un seul coup, ils disent qu'ils sont majeurs. Hein. Vous voyez, c'est très, très compliqué. Et puis on sait très bien, il y a à peu près 1000 mineurs isolés sur Calais, même si on ne sait pas exactement combien qui est mineur. Les Anglais n'en prendront pas 1000, c'est bien aussi.
Claire Millot de l'association Salam, elle répondait à Fabien Lebouc. Les migrants de Calais seront emmenés à partir d'aujourd'hui donc par car dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation disséminés un peu partout en France. Le transfert doit durer toute la semaine. Dans le Vaucluse, à la Tour d'Aigues, hier, 200 sympathisants du Front National se sont retrouvés face à 500 personnes d'un collectif de citoyens favorables à leur accueil. Et puis en Haute-Loire, environ 2000 personnes ont gravi hier le Mont Mézinque, lieu traditionnel des rentrées médiatiques de Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, refuse l'arrivée de migrants dans les communes de sa région. Calmer la colère, c'est le défi de la gauche avec les policiers. Le président Hollande doit rencontrer mercredi les syndicats pour tenter d'éteindre le mouvement né il y a une semaine. Exaspéré par l'agression d'une patrouille au cocktail Molotov à Viry-Châtillon au début du mois, il réclame davantage d'effectifs et de moyens, des peines plus sévères pour les agresseurs et puis la révision des règles de légitime défense. Toutes les nuits, partout en France, des fonctionnaires manifestent donc, hors de tout cadre syndical et de toute autorisation préfectorale également. Pour le politologue Luc Rouban, il faut voir dans ce mouvement l'aboutissement d'un long processus à l'œuvre dans la police depuis des années, dans la police et même plus largement dans la fonction publique.
C'est une crise, si vous voulez, qui s'insère dans peut-être une crise plus générale de la fonction publique et qui partage un certain nombre de points communs avec d'autres corps ou d'autres secteurs d'activité, par exemple comme le secteur hospitalier ou l'enseignement. À savoir, certainement un problème aujourd'hui très important de relation entre la base, hein, les agents de service qui sont en contact avec les usagers, et la hiérarchie. Et tout cela dans le cadre, si vous voulez, d'une évolution générale qui a fait qu'on est allé vers de plus en plus ce qu'on appelle le managérialisme, c'est-à-dire que les hiérarchies ont développé des techniques de gestion et de contrôle des activités qui les ont progressivement éloignées du terrain et des pratiques quotidiennes, ce qui alimente l'incompréhension et l'absence de remontée des doléances. On a commencé à en voir les premiers symptômes à partir de 2009-2010, à mesure qu'on mettait en œuvre la RGPP, qu'on réduisait les effectifs, qu'on managérialisait, pour utiliser ce terme barbare, l'administration publique. Mais ce qui arrive, c'est qu'effectivement, si vous avez un surcroît de demande brutale, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec le terrorisme ou la violence urbaine, etc., eh bien évidemment, cela dégénère et cela crée une onde de choc et l'ensemble du mécanisme se grippe.
Le politologue Luc Rouban, il répondait à Stéphane Robert.
Il est 6h34 sur France Culture. La suite du journal avec vous, Amélie Perrier. Et l'actualité ce matin, c'est aussi la fin de la paralysie politique en Espagne.
Oui, les socialistes espagnols renoncent au pouvoir. Ils ont décidé hier en comité fédéral de laisser le conservateur Mariano Rajoy former un nouveau gouvernement. Ils s'abstiendront lors du vote de confiance. Le PSOE évite ainsi aux Espagnols de retourner aux urnes pour la troisième fois en un an. Un scrutin où ils risquaient de toute façon de perdre encore du terrain, notamment face au parti austérité Podemos. Le parti populaire de Mariano Rajoy a remporté les deux dernières élections, mais sans majorité absolue et sans allié, il va pouvoir former maintenant un gouvernement minoritaire. La Grèce, elle, n'en a pas fini avec les cures d'austérité. Des équipes d'experts ont entamé des négociations avec les dirigeants grecs à Athènes pour débloquer une nouvelle tranche de prêts. L'Union européenne et le FMI réclament en échange la poursuite des privatisations, une réforme du marché du travail ou encore la gestion des prêts bancaires non performants. Dès aujourd'hui, la Grèce attend le versement d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Angélique Kourounis nous appelle d'Athènes.
Pour finaliser cette nouvelle tranche de prêt, les créanciers Allemagne en tête exigent l'accélération des privatisations, la totale libération du marché de l'énergie et la création d'une autorité indépendante pour surveiller les revenus publics. Mesure très difficile à faire passer auprès des Grecs désabusés, de plus en plus nombreux à penser que la fin du tunnel ne viendra pas. Pour le gouvernement Tsipras, il s'agit là d'un véritable revers, car depuis des mois, il annonçait sur tous les tons que les efforts du peuple grec allaient être reconnus. Mais c'était compté sans les prochaines élections allemandes, qui se sont invitées au sommet du Luxembourg qui a statué sur l'octroi de cette demi-tranche de prêt. Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, s'étant catégoriquement opposé au total décaissage de la tranche promise. Dès lors, le Premier ministre Alexis Tsipras, qui a présenté un budget prévoyant un retour à la croissance en 2017 avec 250 millions d'investissements publics, n'a d'autre solution que d'éliminer les dernières résistances de son gouvernement envers les exigences des créanciers, d'où les rumeurs d'un futur remaniement ministériel, mesure qui risque d'augmenter la défiance de ses électeurs.
L'ultimatum de l'Union européenne à la Belgique, elle a jusqu'à ce soir pour convaincre le Parlement régional de Wallonie d'adhérer au CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Et cela se présente mal. Le chef du gouvernement local wallon a rejeté hier une proposition européenne, décevante selon lui. Il considère également qu'un tel ultimatum n'est pas compatible avec le processus démocratique. Et terminons par cette initiative qui ravira les curieux, les amoureux des océans et tous ceux concernés par l'avenir de notre planète. EUMETSAT, l'organisation européenne qui exploite les satellites météo et l'Union européenne, lance ce matin un MOOC, un cycle de cours gratuits sur Internet. Ce MOOC est intitulé « Monitoring the Oceans from Space ». Oui, c'est en anglais. Ça veut dire « Surveiller les océans de l'espace » grâce aux images envoyées par les satellites du programme Copernicus. Explication avec Sophie Bécherel.
Suivre la trajectoire des tempêtes, les pollutions marines, améliorer la sécurité maritime ou la prévision météo, soutenir la pêche, les satellites qui surveillent les océans rendent de nombreux services. Hayley Evers-King du laboratoire marin de Plymouth.
Surveiller les océans, cela permet d'en savoir plus sur les dangers qui nous menacent, sur la gestion durable des océans, les changements climatiques et l'approvisionnement en nourriture. Donc ces satellites ne concernent pas que les scientifiques, mais aussi les décideurs politiques et chacun d'entre nous.
Il y a 20 ans, ce sont les satellites d'altimétrie comme Jason ou Topex Poséidon qui ont commencé à mesurer en continu l'altitude des vagues, la salinité, la température, le niveau des mers. Autant d'informations qu'on a rentrées dans les modèles climatiques et qui permettent aujourd'hui de mesurer au millimètre près la montée des océans. Avec le MOOC, à raison de 3 heures par semaine pendant 5 semaines, vous saurez désormais où trouver les données qui vous intéressent, qui fait quoi depuis l'espace, qui gère les mers. C'est entièrement gratuit et accessible à tous, mais c'est en anglais.
Et voilà, inscription à ce MOOC, ces cours gratuits sur Internet et en anglais. Vous
et
êtes tous bilingues ici,
mais
vous le premier, François Angelier. Inscription sur le site, là aussi c'est en anglais, futurelearn.com. Le temps de ce lundi pour terminer, une dégradation va traverser quasiment tout le pays avec de la pluie, des bandes brouillard ce matin et des fortes rafales de vent sur les Pyrénées notamment. Les températures au petit matin, elles vont de 6 à 11 degrés. L'après-midi, on attend 12 à Lille, 14 à Paris, 15 degrés à Rennes, 18 à Dijon, 21 à Toulouse et 25 à Marseille.